おかしいおかしい、
Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir. Fin de la grève à la fonction publique, même si dans certains secteurs comme l'enseignement supérieur à Kinshasa et les infirmiers, c'est une reprise timide et c'est depuis une semaine que les syndicats de l'administration publique ont lancé le mot d'ordre au niveau de la fonction publique. Quelles solutions le gouvernement a-t-il proposé aux fonctionnaires? Quelle administration publique pour le développement de la RDC? C'est le sujet au centre de ce dialogue entre Congolais. Depuis Kikwit, dans le Bandundu, Douglas Mayoko, un des auditeurs qui ont réagi, pense que c'est bien de mettre fin à la grève, mais il faut trouver des solutions une fois pour toutes. Pierre Chindano de Bukavu, dans le Sud Kivu, pense que le gouvernement doit assainir la fonction publique en remplaçant les vieux par des jeunes universitaires afin de réussir sa mission de développement de la RDC. Et puis Stanislas Kawaya Malikangwe de Kindu Omanema, il invite le gouvernement à prendre en compte les revendications des pensionnaires car sans ces derniers, souligne-t-il, l'État ne saura pas maximiser ses recettes. Pour analyser toutes ces questions, nous avons invité pour vous Vincent Okoyo-Nembe, il est vice-ministre de la fonction publique, Lopez Kibiswa, modérateur de l'intersyndicat du secteur public et président du conseil syndical des services publics qui était à la base de la grève. Et comme analyste, ce soir, nous avons le professeur Jean Otemi Kongo Mandesou, il est politologue, doyen à la faculté de droit et doyen honoraire à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à Kisangani.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Fin de la grève à la fonction publique, quelle solution le gouvernement a-t-il proposé aux fonctionnaires? Romain Moutoumoy est président de l'intersyndicat des services de l'État, pense que le protocole d'accord signé entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement est un acte salutaire pour les fonctionnaires et agents de l'État. Il se dit confiant quant à la réalisation de cet accord. On écoute Romain Moutoumoy au téléphone de Guy Roger Yampala.
Nous avions pu réaliser un très bon travail qui a fait qu'aujourd'hui, là où nous parlons, les huissiers de l'intérieur qui se sentaient abandonnés a droit aujourd'hui aux mêmes avantages que son collègue de Kinshasa. C'est pas le premier protocole d'accord que nous allons signer avec le gouvernement, à part les accords de Moody que le gouvernement traîne les pieds pour appliquer, mais les autres protocoles d'accord que nous signons avec eux, ils réalisent ça sans difficulté. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont appliquer celui-là dès décembre 2007 comme c'est convenu dans les accords. Donc, il n'y a qu'un seul exercice que l'employeur qui est le gouvernement peut conjuguer, c'est de motiver les agents et fonctionnaires de l'État. Parce que moi, je suis producteur, par exemple, des recettes. Dans ce qu'on me donne, je ne trouve pas mon compte. Mes enfants malades à la maison, mes enfants à renvoyer de l'école, comment voulez-vous que j'ai cette conscience-là pour m'acquitter de mes obligations comme je dois?
Kibiswa Lopez, vous êtes l'un des leaders du monde syndical. Vous êtes parmi ceux qui étaient à la base de la grève et même de l'arrivée de cette grève. Finalement, c'est quoi le plus grand acquis de la dernière grève que vous avez observée dans la fonction publique?
Merci beaucoup pour l'invitation au CAPI. Si je peux parler en termes d'acquis, c'est maigre, mais nous en sommes contentés. Il y a trois acquis essentiels. C'est que d'abord, les fonctionnaires et agents de l'État des provinces vont avoir le même salaire de base que les fonctionnaires et agents de l'État de Kinshasa. Comme disait le camarade Montumoy, que j'ai salué au passage, c'est que le huissier de Kinshasa, celui de Haru, celui de Mahagi, celui de Kasumbalesa ou Popokabaka, tout le monde aura 35 000 francs congolais. Deuxième acquis, c'est le fait que les autres secteurs qui étaient lésés, à Kinshasa en particulier, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire, dans les secteurs de l'agriculture, eux aussi, ils avaient 28 000 francs congolais pour leur dernier, qui est l'équivalent d'agents de bureau de première classe. Eh bien, ils ont été aussi rétablis dans leurs droits, c'est-à-dire leur dernier aura l'équivalent de l'agent de bureau de deuxième classe, au lieu de 28 000 francs congolais qu'ils avaient. Mmh. Et l'autre élément, c'est le fait que les militaires, les policiers, les agents de la NER et de la DGM, ces bras séculiers sur lesquels s'appuient les gouvernants et qui sont toujours les moins bien payés de tout le monde, sont aussi entrés dans le barème de l'administration publique en général, et donc d'une manière ou d'une autre, ils vont cesser, je l'espère bien, à partir de décembre, de considérer que les civils sont leurs bilanga. Nous ne sommes pas leurs champs, nous les avons défendus pour qu'ensemble nous ayons le même salaire et que personne n'ait le prétexte de chercher à racketter l'autre.
Oui. Et vous dites que c'est maigre, hein, même si dans les explications, ça semble être quand même un grand acquis par rapport à vos revendications. Mais comment vous expliquez la poursuite de la grève au niveau de l'enseignement supérieur? C'est peut-être la question qu'on peut poser aux professeurs. Jean Otemi Kongo Mandefu, comment vous expliquez qu'au niveau de Kinshasa, des professeurs sont en grève alors que c'est la fin de la grève avec tout ce que Kibiso vient d'avancer?
D'emblée, j'aimerais remercier à Radio Okapi pour l'invitation qu'elle vient de m'adresser ce soir. Envie de prendre part à cette émission qui est bien suivie sur l'ensemble de notre territoire.
Merci.
En deuxième lieu, je note en passant que les syndicalistes se réjouissent des acquis obtenus à la suite des négociations entre l'intersyndical et le gouvernement, mais à mon sens, je pense qu'il faut bien noter les écueils que comportent ces accords, notamment en ce qu'ils énervent les statuts particuliers dont bénéficient notamment les personnels de l'enseignement supérieur universitaire. Et il faudrait ici déplorer cette tendance à la fonctionnalisation du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire qui est régi par des statuts particuliers. Et s'il y a des mécontentements dans les rangs des personnels de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est justement à cause de cette tendance à l'uniformisation du statut et des barèmes salariaux, mais aussi, comme je l'ai dit, cette tendance à la fonctionnalisation. Les professeurs d'université ne doivent pas être confondus avec les agents fonctionnaires de la fonction publique. Et ces derniers sont régis par les statuts généraux, tandis que le personnel de l'université est régi par un statut particulier que le gouvernement et les syndicalistes ont tendance à ignorer.
Merci beaucoup pour cette précision. Vous voulez ajouter, Kibiso, ou vous êtes de cet avis, vous êtes de l'avis du professeur Jean-Otemi Kongo de Mandefu de l'UNIKIS?
Deux précisions. La première, c'est que la grève dans les secteurs particuliers, ou même les menaces de grève dans les secteurs
Il y a l'enseignement supérieur et les infirmiers.
Exact. Non, c'est pas les infirmiers, c'est tous les professionnels de santé.
Oui, allez-y.
Le malheur, c'est que souvent, on parle d'infirmiers, ou de médecins seulement, alors qu'il s'agit bien, le technicien de laboratoire n'est pas infirmier.
Oui, allez-y.
Et
pourquoi?
Je voudrais bien préciser ça, parce que les journalistes font ce genre de...
Oui, mais pourquoi ils continuent la grève?
Alors, si je prends les secteurs particuliers, il y a des spécificités qui sont plus juteuses que le salaire de base. Or, notre grève et la revendication qui est concernée par le protocole d'accord porte sur le salaire de base. Or, comme le premier palier de Mboudi n'est pas encore réalisé, c'est clair que ce que nous avons obtenu est en dessous du premier palier de Mboudi, et je voudrais rectifier ici pour tout le monde, une fois pour toutes, ceux qui ont dit que le protocole d'accord prévoyait l'application du premier palier de Mboudi, c'est une erreur, il faut qu'ils rectifient. est une généralisation simplement du barème qui est d'application à Kinshasa vers les provinces et vers les secteurs que je venais de citer. Alors donc, il y a par exemple à la santé la prime des risques qui est plus juteuse que les salaires de base. Ça c'est un. Deux, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a une erreur d'abord que le professeur devrait évacuer. Tout le monde qui est régi par un statut au sein de l'administration publique, qu'il soit statut particulier, qu'il soit statut général, c'est un agent public.
Donc c'est un fonctionnaire.
On peut jouer avec les mots, c'est un agent public.
Donc
son Excellence M. Joseph Kabila est un agent public. Seulement lui, il est politique. Et les autres sont régis par des statuts bien clairs.
Oui.
Alors, pour l'enseignement supérieur,
oui, il y a également... Il faut qu'on ait la réaction du gouvernement.
Il y a également une prime juteuse. Et la démarche, pour le moment, que moi je conseille, moi-même je suis enseignant de l'enseignement supérieur, que moi je conseille, c'est de faire en sorte que cette prime-là devienne le salaire de base. Et à ce moment-là, ils auront fait un pas, mais peut-être... par étapes.
Merci, Thibé Soin-Nopest, vous êtes modérateur de l'intersyndicat du secteur public. Monsieur le vice-ministre de la fonction publique, Vincent Okoyo-Nembe, qu'est-ce que vous répondez aux fonctionnaires qui vous disent que c'est vrai, vous avez, ils ont des acquis, hein, c'est-à-dire vous avez réussi à uniformiser le salaire, c'était la principale revendication, mais c'est maigre. Qu'est-ce que vous répondez?
Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier d'abord pour l'invitation que vous nous avez lancée et remercier la radio Okapi pour cette opportunité qu'elle nous offre. Et puis, je voulais relever quand même que cette uniformisation, bien que dite maigre par les fonctionnaires, revêt beaucoup de caractères d'innovation dans notre pays. Et je vais relever essentiellement deux caractères.
Oui.
Le premier, c'est que ces barèmes valorisent le salaire de base qui, jusque-là, était très maigre. Il faut imaginer que le salaire du huissier, jusqu'à quelques mois encore, était de 860 francs à peu près. Et donc, avec l'effort du gouvernement, nous sommes arrivés à accorder une importance plus grande au salaire des bases, qui est aujourd'hui pour les huissiers de 35 000 francs, ce qui est l'équivalent d'environ 70 $.
Ouais.
Allez-y, calculez, et vous allez voir quel est le facteur multiplicateur que nous avons utilisé pour partir de 860 francs à 35 000 francs. Vous comprenez là l'effort du gouvernement à vouloir valoriser le fonctionnaire, à vouloir valoriser l'agent de l'État en mettant un accent particulier sur le salaire de base. Le deuxième, c'est l'uniformisation même du salaire, et c'est qui n'existait pas dans notre pays depuis Belgrade. Le fait que l'huissier, dans les jours qui viennent, peut... L'huissier à Kasumbalesa, par exemple, ou bien Yaleko ou Pala, peut toucher le même salaire de base que son collègue huissier de Kinshasa. Et ce sont là deux grandes innovations qui sont importantes et qu'il convient naturellement de noter dans la démarche que le gouvernement a concrétisé avec l'intersyndicale.
Même si le coût de vie n'est pas le même.
Et là, ce sont les avantages sociaux qui vont distinguer les huissiers de Kinshasa et les huissiers de l'intérieur, compte tenu de caractéristiques de la vie à Kinshasa et à l'intérieur. Donc voilà un peu ce qui est important, et je crois que pour un gouvernement qui a pris les trains en marche, cet effort-là est déjà considérable, et les amis syndicalistes, les fonctionnaires devraient apprécier et soutenir le gouvernement dans cet effort de vouloir valoriser les fonctionnaires en partant de son salaire de base avant de voir quelle est sa hauteur et quelle sera sa hauteur dans 2, 3, 4 mois.
Mais il vous dit déjà que c'est maigre.
C'est maigre, nous le reconnaissons parce que nous avons, comme gouvernement, cette prétention de vouloir améliorer la situation des agents et fonctionnaires de l'État. Et nous croyons donc que nous ne resterons pas là et qu'un effort reste à fournir pour faire mieux.
Oui, monsieur le professeur, je rappelle d'abord aux auditeurs que le thème de ce soir, il s'agit bien de la fin de la grève à la fonction publique. Quelle solution le gouvernement a-t-il proposé aux fonctionnaires ? Et nous recevons le vice-ministre à la fonction publique, Vincent Okoyo-Nembe. Nous avons aussi Nopes Kibiswa, modérateur de l'intersyndicale du secteur public et président du conseil syndical des services publics, ainsi que le professeur Jean Otemi Kongo-Mandefo. Il est doyen à la faculté de droit et doyen honoraire à la faculté de sciences sociales à l'université de Kinshasa. Oui, vous voulez ajouter, dire un mot, professeur Jean-Denis.
Je suis d'avis avec Kibiswa que les enseignants ou les professeurs d'université sont des agents publics, mais il s'agit là d'un terme générique applicable au personnel de l'État qui prête à ces derniers sa collaboration dans le cadre de l'exécution de ses missions. Mais seulement, l'effort fourni par le gouvernement est bien sûr notable, mais il faut vite préciser que cela vaut uniquement à l'égard des agents qui sont régis par les statuts généraux de la fonction publique. Il y a des spécificités qui devraient être tenues, qui devraient être prises en compte, notamment en faveur de personnel qui est régi par des statuts particuliers. Et cette tendance à vouloir tout uniformiser ignore donc les spécificités de certains emplois et ça risque donc de démotiver le personnel. Le gouvernement semble n'avoir pas bien prêté attention au statut particulier qui régit le personnel de l'enseignement supérieur. Quand M. Kibiswa dit que le personnel de l'université, de même que les politiciens, sont des agents publics, mais il ne fait pas cas de disparité énorme entre les agents publics et le personnel politique. Vous savez, tous ces gros salaires qui sont versés aux membres du gouvernement, les chiffres qui sont publiés par la presse indiquent que les membres du gouvernement toucheraient jusqu'à 9 000 dollars par mois, contre 4 200 pour les députés par mois. Alors qu'on donne aux huissiers de l'administration publique des miettes à peine 60 ou 60 dollars. Je crois que s'il y a un problème plutôt en ce qui concerne la répartition équitable du revenu national. Il ne doit pas y avoir des fonds pour graisser certains agents publics, notamment les policiers et les politiciens, et puis aux autres, on va demander de serrer les cercles. On doit avouer que l'effort fourni reste maigre.
Merci, professeur, pour cette précision. Nous allons le voir d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, fin de la grève à la fonction publique. Quelle administration publique pour le développement de la RDC ? Cette question nous introduit dans la deuxième partie de cette émission, dialogue entre Congolais qui reçoit le vice-ministre de la fonction publique, Okoyo-Nembe Vincent, ainsi que Nopes Kibiswa, qui est modérateur de l'intersyndicale, et le professeur Jean-Otemi Kongo-Mandefou de l'Université de Kisangani.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-8999-222.
Fin de la grève à la fonction publique, quelle administration publique pour le développement de la RDC ? L'artiste musicien et député provincial de Kinshasa, Pascal Kabouley, qui est également un ancien fonctionnaire, regrette la belle époque des Kalaka, ces fonctionnaires de l'époque coloniale et postcoloniale. Pascal Kabouley témoigne au téléphone de Guy Roger Yampala.
Le fonctionnaire congolais de l'époque était un monsieur noble. Il était au sommet de la préoccupation de la nation. Il avait toutes les possibilités de vivre heureux, avoir les soins médicaux pris par l'État. Tous les enfants allaient à l'école, les études primaires, on n'achetait pas les cahiers, on ne payait pas de minerval, on ne payait rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, s'il faut revenir à 50 ans plus tard ou 47 ans plus tard, on a l'impression de dire pourquoi le blanc est-il parti. Le salaire d'un fonctionnaire de l'État était le thermomètre du salaire de tous les autres citoyens du pays. Oui, mais cette avenue qu'on appelle l'enseignement. Toutes les maisons qui sont là, les belles maisons en étage ou en rez-de-chaussée, des belles villas, là, ça appartenait aux enseignants. Et quels enseignants ? Pas des des professeurs de l'université. C'est le simple maître que nous appelions monsieur. Moi-même, j'étais fonctionnaire. Quand je suis devenu rédacteur, on venait me chercher dans la voiture noire de la télé du Canada, jusqu'à ce que je suis devenu directeur, mais c'était encore mieux. Or, monsieur, à l'époque, c'était des messieurs. Les plus grands citoyens du pays, c'était les enseignants, c'était les fonctionnaires, les évolués. On les appelait les évolués ou les immatriculés. Leurs enfants allaient dans les mêmes écoles que les enfants des Blancs. Et imaginez que dans l'hôtel de ville, il y avait au moins 33 000 personnes payées, prises en charge par l'hôtel de ville de l'époque. Aujourd'hui, là, j'ai eu à travailler à l'hôtel de ville. J'y suis encore jusqu'à aujourd'hui où nous nous battons souvent, soit à éliminer les gens pour ne pas dépasser le cap de 20 000.
Monsieur le vice-ministre de la fonction publique, Vincent Okoyo-Nembe, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez comme ça un ancien fonctionnaire vous dire que il y en a qui regrettent même pourquoi les Blancs sont partis? Qu'est-ce que ça vous fait, vous?
Je comprends donc que le chef de l'État est relayé par le Premier ministre dans son discours à l'Assemblée nationale qui présentait le programme du gouvernement avait raison. Avait raison de faire de la réforme de l'administration publique une priorité, une des priorités à notre pays. Justement parce que lorsque l'on compare une certaine époque, l'artiste a parlé de l'époque coloniale, mais aussi l'époque post-coloniale, et notre époque, on constate vraiment qu'il y a une désarticulation grave de l'appareil administratif, et ce qui nous appelle, au moment où nous voulons recréer, refonder l'État, à ressusciter cette administration. D'où la nécessité de la réforme de l'administration publique.
Oui, puisque vous parlez de la réforme, on sait qu'il y a eu plusieurs études, il y a eu même beaucoup d'experts qui sont venus de l'Afrique du Sud, il y a eu des Belges, pour même le CNUS s'est impliqué pour chercher à maîtriser l'effectif des fonctionnaires. Vous avez, on a combien de fonctionnaires aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je vais vous faire constater que la réforme, la maîtrise des effectifs est un maillon dans le processus de la réforme de l'administration publique et qui n'est pas le moindre en fait. Et il importe de savoir que dans cette réforme, il y a une exigence. Une administration que nous voulons être une administration de développement doit tenir compte de certains principes, notamment la compétence des agents et fonctionnaires de l'État, leur intégrité morale, leur discipline, mais aussi leur motivation. Et avant d'en arriver là, oui, il importe que nous puissions savoir qui y est fonctionnaire et qui ne l'est pas.
Et ils sont combien, les fonctionnaires, aujourd'hui? Je repose ma question.
Les fonctionnaires, c'est pas, peut-être de façon brute que nous pouvons répondre. Une première phase du recensement a été faite. Celle-là concernait Kinshasa et l'ensemble des provinces. Et c'est ce que nous avons appelé la phase manuelle du recensement, qui a donné pour les services. Et là, j'aimerais distinguer, il y a deux catégories de fonctionnaires, en fait, qu'il faut considérer. Il y a ceux dont les services ont fait l'objet du recensement par la fonction publique, et d'autres services, comprenant les agents publics et les agents de l'État, qui n'ont pas fait l'objet du recensement par la fonction publique. Je vais citer, par exemple, les services de renseignement. Tandis que ceux qui ont, parmi les services qui ont fait l'objet du recensement par la fonction publique, nous avons des chiffres approximatifs d'environ 380 000 fonctionnaires qui sont enregistrés. Et pour la ville-province de Kinshasa, la deuxième phase étant terminée, nous nous situons autour de 95 000 agents de l'État. Et donc cela, c'est une partie en fait des 380 000, ce qui vous donne à peu près l'idée sur le nombre des agents et fonctionnaires de l'État, en attendant que les chiffres définitifs soient
donnés. Et là, les 300 000 environ que vous donnez, vous avez dit, c'est à part les services de renseignement.
Les services de renseignement, quand nous considérons tous les services qui sont payés par le Trésor public, il y a la police, l'armée, ainsi de suite, qui sont là. Et donc, dans ce secteur-là, il n'y a pas eu de recensement. Mais nous pouvons estimer que, à considérer les données de la direction de la paix, pour tous ceux qui sont payés par le Trésor public en République démocratique du Congo, nous avons des chiffres qui avoisinent 950 000 agents de l'État à travers la République, tous les services confondus.
Voilà. Est-ce que 500 000 ou 300 000 environ, ce n'est pas une pléthore?
parler de pléthore nous pose la question de savoir exactement quel est le besoin réel de la République démocratique du Congo. Et cela nous oblige à passer par le contrôle même de nos cadres organiques qui sont là. Malheureusement, nous savons que maintenant, il y a une commission qui siège pour harmoniser les différents cadres organiques des différents services. C'est à l'issue de ces processus que nous appelons le processus de rationalisation des cadres organiques des différents services que nous pouvons être en mesure d'estimer l'effectif requis pour notre administration en République démocratique du Congo. Et ainsi, si ces effectifs sont inférieurs à ceux que nous avons, nous pouvons parler de pléthore, mais c'est pour justement répondre à cette question de pléthore ou non que le recensement a été organisé et que la rationalisation des cadres organiques est en train d'être effectuée.
Alors, on va poser la question à vous, Nopes Kibiso, à vous qui êtes du monde syndical. Est-ce que vous estimez que le recensement tel qu'il a été fait, c'est le résultat, en fait, est satisfaisant pour vous?
Merci beaucoup, mais permettez-moi de ne pas faire un crossing over en laissant quelques questions suspendues. Il y a d'abord la question de l'excès de chauvinisme dans l'administration publique qui fait que les uns défendent leur petit carré et les autres en disant vous autres vous restez à côté parce que vous êtes fonctionnaires. Parce que le terme fonctionnaire est devenu péjoratif. Je ne pense pas, si nous restions tous dans les standings que Taboulé a décrit, il y aurait certains qui diraient non, ceux-là sont fonctionnaires, nous sommes professeurs, nous sommes, je ne sais pas, quelle catégorie spéciale. L'excès de chauvinisme nous réduit tous à la mendicité, parce que la force que possède le professeur pour revendiquer, s'il se met à la tête des autres agents de l'État, eh bien, tous ces autres agents de l'État vont se mettre sous ses aisselles parce qu'il est le grand dans la société et tout le monde va avoir quelque chose sur le dos du professeur.
Là, vous en prenez le professeur.
Non, je ne m'en prends pas, je conseille. Je dis bien, moi-même, je suis enseignant à l'enseignement supérieur, mais il y a un excès de corporatisme au sein de l'administration publique ou des corps qui aurait dû aider les autres dans le combat pour à l'amélioration des conditions de tous les agents de l'État, se sectarise davantage et ça fait que l'administration, le ministre...
Là, c'est une précision que vous donniez.
Voilà, le gouvernement, c'est de l'être, là, il est bien.
Oui.
Alors, je voudrais...
Il y a une deuxième chose.
Nous tous, nous déplorons le fait que il y a une répartition inégale du revenu national. Et c'est le combat que nous menons, et c'est pour cela que nous nous sommes regroupés en intersyndicale nationale du secteur public, et nous voulons en faire une machine de combat pour l'amélioration des conditions sociales de tout le monde,
oui,
y compris même des professeurs.
Là,
les corrections que nous avons faites, ça concerne également les professeurs, parce que les professeurs touchent 33, professeurs ordinaires, 33 000 francs congolais de salaire de base, en dessous du huissier. Et nous avons remonté ça pour que cette honte-là soit lavée.
Donc, vous l'avez remonté à combien?
Nous l'avons, pour le professeur d'université ordinaire, il aura 61 323, quelque chose comme ça. Un peu comme le secrétaire général de l'administration publique. Donc, je voudrais quand même que tout le monde comprenne que nous avons fait ce que nous pouvions faire, même pour le professeur. Alors,
est-ce que le recensement a été bien réalisé?
Non. Le recensement n'a pas été parfait.
Pourquoi?
Simplement parce qu'il a été impulsé d'une manière un peu unilatérale par le ministère de la fonction publique lorsqu'il a commencé et il a produit des résultats que nous acceptons maintenant d'assumer aujourd'hui parce que nous voulons avoir un point de départ. Donc, nous avons, jusqu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique ne peut pas vous dire exactement, et vous l'avez vu, combien de fonctionnaires il y en a.
Donc, la maîtrise n'est pas tout à fait...
Il peut vous donner des chiffres approximatifs, et je peux vous dire que la direction de la paye rémunère aujourd'hui plus ou moins 1 million d'agents publics, y compris donc militaires, politiciens, policiers, agents de la mer, ainsi de suite, ça fait plus ou moins 1 million. Mais vous allez trouver même dans des effectifs sortants de la même direction de la paye, vous trouvez à l'heure H 1 million d'agents, à l'heure H plus 1, vous trouvez 900 agents. Après, vous trouverez 1 million 300, ainsi de suite. Voilà, c'est difficile.
C'est difficile. Voilà. Professeur Jean Otemi Kongo Mandefo, hein, vous êtes, je rappelle, doyen de la faculté de droit et puis ancien doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau des effectifs? Vous avez suivi, hein, 300 000 environ, d'après le vice-ministre de la fonction publique, Vincent Okolenembe. Mais pour Kibiswa, on est déjà dans 1 million. Évidemment, Kibiswa a ajouté les forces de l'ordre. Hein, le ministre n'avait pas encore intégré les forces de l'ordre. Et déjà à ce niveau-là, est-ce que vous pensez que ça promet pour avoir une bonne administration publique dans ce pays?
J'aimerais d'abord apaiser Kibiswa pour dire que le combat des agents de l'État, tout comme celui des forces d'université elles-mêmes, l'amélioration de vécu des citoyens congolais. Et le mal est bien cerné, il s'agit d'un problème de répartition inégale du revenu. À propos de la question posée par notre ami, je suis heureux de constater que le gouvernement de même et que le syndicat ne mettent pas à l'unisson à propos de la maîtrise des effectifs. Ce problème n'est pas spécifique à l'administration publique congolaise. C'est une pathologie administrative qu'on rencontre dans toutes les administrations du monde et en particulier dans celles des pays en voie de développement qui ont des problèmes de maîtrise des statistiques, de maîtrise des chiffres des agents de l'État. Cette question est une nébuleuse et en sciences administratives pures, il peut être expliqué par ce qu'on appelle les principes de Peter ou les principes aussi de Parkinson. Dans toutes les administrations du monde, celles-ci ont toujours tendance à gonfler les effectifs, même sans besoin réel avec les exigences de l'administration. Et il y a trois explications à ces problèmes. D'abord, une explication d'ordre politique. Et tous ces dirigeants qui sont arrivés au pouvoir ont eu des clients et qu'il faut caser, ont envie de casser ou d'apaiser le mécontentement.
Oui.
Et on fabrique des postes et personne n'a intérêt à les perdre.
Oui. Professeur, je vous garde, nous allons d'abord aller à Brazzaville, avoir une idée de comment fonctionne l'administration publique à Brazzaville avec un élément que nous propose notre correspondant à Saint-Sébastien.
La fonction publique est le principal pourvoyeur d'emplois au Congo-Brazzaville. Plus de 56 000 agents pour une population estimée à 3,3 millions d'habitants y travaillent d'après les chiffres officiels. Les étudiants en fin de formation et d'autres jeunes rêvent tous aller à la fonction publique. Mais le gouvernement n'ouvre pas assez les portes. 3 500 à 4 000 recrutements seulement sont organisés par année. La retraite étant fixée à 60 ans, les quelques 3 000 agents qui devaient aller au repos cette année ont tous été rappelés au travail. La masse salariale annuelle de la fonction publique du Congo-Brazzaville est de 260 millions de dollars. Le gouvernement a fixé au début de cette année le salaire minimum à 160 dollars dans la fonction publique, alors qu'on trouvait des soldats qui ne gagnaient encore que 72 dollars. On note cependant des plafond de salaire à 1 600 voire 2 000 dollars pour les magistrats et les enseignants de l'université. Les cadres commencent souvent dans la fonction publique avec des salaires de l'ordre de 300 dollars. Il faut signaler que depuis 1995, ces salaires ont perdu 12,5% suite aux mesures d'austérité édictées par le Fonds monétaire international. Et le gouvernement actuel s'attelle à les révaloriser, soit 5% cette année. En dehors du secteur pétrolier qui fait à lui seul 70% du budget national fixé cette année à plus de 2 milliards de dollars, la fonction publique du Congo-Brazzaville mobilise d'importantes recettes dans les douanes, les impôts et le fixe forestier. Cela fait près de 30% du budget national. À Saint-Séverin, Brazzaville, Radio 4.
Un commentaire avec vous, monsieur le vice-ministre à la fonction publique, Vincent Okoyonembe. Vous, déjà, on a suivi tout ce qui se passe au niveau des effectifs. Le professeur a dit il faut qu'on améliore, hein, qu'on ait une maîtrise bien précise des effectifs. Mais au niveau des salaires, quand vous entendez, par exemple, le plus bas salaire à Brazzaville, c'est 160 dollars. Et ici, on a environ 70 dollars, hein, le salaire le plus bas. Hein? Et puis, environ 130 dollars pour le professeur d'ordinaire à l'université. Qu'est-ce que vous dites alors qu'à Brazzaville, c'est dans les 2000 dollars?
Je crois que nous l'avons dit au départ, que nous avons un effort à fournir encore. Nous avons, avec Brazzaville, bien sûr, une proximité géographique. Nous partageons certaines réalités d'ordre politique, mais qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Et sur le plan économique, nous avons quelques ressemblances, mais il faut retenir que nous sommes un pays autre que le Congo-Brazza.
Moins riche que le Congo-Brazzaville, vous pensez?
Naturellement, pas moins riche, certainement, parce qu'on parle d'un scandale géologique en République démocratique du Congo, mais il y a encore un effort d'organisation qui puisse faire que la collecte des recettes que nous sommes capables de mobiliser puisse atteindre les trésors publics et être judicieusement réparti à tous les agents fonctionnaires de l'État. Mais je voulais apporter deux précisions.
Allez-y, avant qu'on passe aux réactions des auditeurs. Allez.
Alors, en fait, sur les effectifs de la fonction publique, je crois que si nous parlons de chiffres approximatifs, c'est parce que le processus du recensement n'est pas encore terminé.
Mais ça prend quand même du temps, monsieur le
vice-ministre. C'est ça, nous attelons à ça. Et le recensement, il faut le reconnaître, c'est quand même un travail qui a été abattu, de bonne qualité et qui a couvert toute l'étendue de la République. Et tout être humain étant perfectible, nous savons qu'il y a quelques cas qui peuvent être étudiés et reçus par la commission des recours, d'ailleurs, qui a été instituée à la fonction publique. Dire que le recensement n'est pas bon, donc non, je crois que c'est quand même un extrémisme, un pessimisme grave, puisque ce travail, pour les experts avaient quand même une qualité importante et sur la base desquelles nous allons nous appuyer pour maîtriser les effets.
Mais il s'est terminé.
Je voulais apporter une dernière précision. J'ai parlé des deux catégories de services, ceux ayant fait l'objet du recensement à la fonction publique et d'autres n'ayant pas fait l'objet du recensement. Et pour ceux qui ont fait l'objet du recensement, j'ai donné les chiffres à peu près que nous avons à la fonction publique, tandis que d'autres, comme l'armée, la police, ainsi de suite, nous avons donné, et le total avoisine à peu près 950 000. Je n'ai pas dit que nous ne connaissons pas les chiffres, vous pouvez les lire tout simplement. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, monsieur le vice-ministre. Nous allons prendre les réactions des auditeurs et on revient à vous pour y répondre. Merci. Nous prenons Virginie Impala qui vient de faire son entrée dans ce sujet.
Dikams de Kalemi au Katanga affirme ce qui suit. Ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement donne une promesse de ce genre aux fonctionnaires. Nous voulons, affirme-t-il, la réalisation et non aller de promesse en promesse. Robert Dombandaka, dans la province de l'Équateur, demande pourquoi le gouvernement ne tient pas compte des problèmes des matricules et des mécanisations des nouvelles unités. De son côté, Pépé Lissungi de Kisangani, dans la province orientale, s'interroge pourquoi les gros salaires des députés et des sénateurs ne posent pas des problèmes alors que le salaire de misère des fonctionnaires pose problème au niveau de l'application de l'accord de Mboudi. Bebeto Bouetelo de Luozi au Bas-Congo pense que malgré la bonne intention des fonctionnaires de lever la grève, les fonctionnaires doivent avoir en tête que l'enjeu est de savoir comment payer le barème de Mboudi. Enfin, Kazoni Chumba de Kindu au Maniema déclare qu'il est très facile d'aller en grève, mais il est aussi impérieux de lutter contre les agents fictifs observés dans la fonction publique.
Merci beaucoup Guy Roger Niampala. Nous allons aller rapidement avec ces réactions et vous permettre d'y répondre. D'abord, commençons par celle de Dikams de Kalemio Katanga qui lui il dit que c'est pas pour la première fois que le gouvernement donne une promesse de ce genre aux fonctionnaires. Nous voulons la réalisation et non aller de promesse en promesse. Monsieur le vice-ministre, brièvement, est-ce que vous pouvez garantir que la promesse faite d'uniformiser les salaires et même d'améliorer, pourquoi pas, les salaires des fonctionnaires, le gouverneur va la réaliser?
Je crois que lorsque l'on lit le protocole d'accord que nous avons signé récemment avec les banques syndicales, Le premier principe affirme la co-responsabilité entre donc, du gouvernement et du banc syndical dans le processus d'amélioration de la situation des agents et fonctionnaires de l'État. Donc il ne s'agit pas là d'un engagement que le gouvernement a pris unilatéralement, mais d'un engagement commun que le gouvernement et le banc syndical ont pris pour améliorer la situation des agents et fonctionnaires de l'État sur base d'un exercice que nous allons faire ensemble. Donc il ne s'agit pas d'un jeu de cache-cache que le gouvernement fait, il ne s'agit pas d'une promesse d'ordre démagogique que le gouvernement a fait, il s'agit bel et bien d'un engagement pris ensemble avec le banc syndical. Et donc il nous appartient, gouvernement et banc syndical, de nous mettre au travail pour détecter partout où nous pouvons collecter des recettes en vue de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires.
Merci beaucoup, monsieur le vice-ministre Vincent Okoyo-Nembe. On prend une autre réaction, celle de Pepele Sungi de Kisangani. Lui s'interroge pourquoi les gros salaires des députés et sénateurs ne posent pas problème, alors que les salaires de misère des fonctionnaires posent problème au niveau de l'application de l'accord de Mboudi. Qu'est-ce que vous répondez, Nobès Kibiswa?
Je pense que celui qui a parlé, il a bien trouvé où se trouve la grande déception. La grande déception, c'est que les personnes élues se précipitent à tripler leur salaire, mais oublient, un, les personnes qui les ont élues, qui croupissent dans la misère, deux, les personnes qui doivent mobiliser les recettes, c'est-à-dire les agents de l'État, afin qu'ils puissent, eux, en avoir davantage. Et ça, c'est la plus grande déception que l'on puisse avoir. Mais je voudrais également dire quelque chose, c'est que lorsque nous parlons de salaire, de l'engagement, je suis content que les vice-ministres aient parlé effectivement.
C'est bref, hein?
De l'engagement, c'est pas d'une promesse. Et la garantie de l'application de cette promesse, de cet engagement-là, c'est l'agent public lui-même. Donc mon compagnon de Kalemi qui a posé cette question-là doit savoir que celui qui est la garantie, il doit se tenir prêt à se battre encore contre ce que le gouvernement aurait fait ou pourrait faire pour ne pas appliquer cela. Merci. Voilà ce que je fais lui dire.
Merci, Kédesson Lopez. Nous prenons la réaction de Kazoni Chomba de Kindo Maniema. Il déclare qu'il est très facile d'aller en grève, mais il est aussi impérieux de lutter contre les agents fictifs observés dans la fonction publique. Professeur, vous qui êtes professeur, Jean Otemi Kongo Mandefou, professeur à la faculté de sciences politiques et administratives, vous pensez que c'est impérieux de combattre les agents fictifs dans notre administration?
C'est impérieux de débusquer les fictifs pour permettre à l'État de dégager une masse salariale qui doit être reversée dans l'enveloppe destinée à la rémunération des agents de l'État. Mais à mon avis, ce n'est pas ça le fond du problème. Dans la mesure où on ne doit pas s'offusquer outre mesure qu'on puisse bien payer nos députés et nos membres du gouvernement, c'est une bonne chose qu'ils soient bien payés. Mais ce qui pose problème, c'est plutôt un problème de répartition du revenu national. On ne pourrait pas s'offusquer autre mesure. Pourquoi on donnerait tel montant à un député ou à un ministre du gouvernement? Ce montant serait paraminé par rapport à quoi? Par rapport au salaire de misère qu'on donnerait aux huissiers, peut-être, mais comparé aux autres députés ou bien comparé aux autres ministres, est-ce la même chose? Je ne pense pas. Moi, je pense que le vrai combat qu'il faudrait mener, c'est bien sûr ce problème de maîtrise des effectifs, mais il y a aussi un problème de la production. Il faut d'abord que les agents se mettent au travail pour qu'ils produisent, ce qui va permettre à l'État de mobiliser des ressources nécessaires, et il faut alors se battre pour que le revenu national ainsi généré soit bien réparti, sans trop de discrimination importante, comme celle que nous décrions ici.
Oui. Mais monsieur le vice-ministre de la fonction publique, hein, Vincent Okoyo-Nembe, est-ce que ça ne vous gêne pas quand vous entendez des gens comme ça poser des questions, le salaire que vous touchez en tant que vice-ministre, même ministre, par rapport à ce que touchent les fonctionnaires, hein, secrétaire général, professeur ordinaire, on a vu là, c'est 130 $. Ça ne vous gêne pas en tant que membre du gouvernement?
S'il m'appartenait de rendre public le salaire des membres du gouvernement, j'allais vous surprendre. Malheureusement, je ne suis pas autorisé de le faire ici.
C'est quand même pas autorisé.
J'allais vous surprendre dans le sens que Ce n'est pas autant que le professeur ordinaire, mais ce n'est pas aussi exorbitant que vous le croyez. Et de cette façon, je crois que nous sommes
conclus. Parce que là, on tend vers la fin, on essaie de conclure.
Voilà, c'est par là que je devais conclure. Mmh. Pour dire que, en fait, la réclamation des salaires, c'est une bonne chose. Nous considérons que c'est une réclamation légitime, mais il faut nous mettre au travail et trouver de l'argent là où il se trouve pour le répartir entre
nous. Merci beaucoup, monsieur le vice-ministre. Avec vous, que nous mettons fin à cette émission Dialogue entre Congolais. Héritier Sidiakala était à la technique, Kéline Koupé à la réalisation et Guy Roger Liampala l'a préparé. Moi, c'est Jean-Claude Toumba Kamanga. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Thank you.